Le journal Adia Chipoukou.
Bienvenue dans cette édition, tout de suite les grandes lignes. Le MLC inquiet de la nomination de deux militaires à la tête de la ville de Kinshasa et du ministère de l'Intérieur. Selon son secrétaire national chargé des réformes, Romanini, cela est une entrave au principe de la neutralité de l'armée. Des enfants arrivent massivement dans le centre de transit de la Conader à Coindroma depuis le mois de juillet, constat d'une délégation des organisations chargées de protection de l'enfance à l'issue d'une mission dans cette partie de l'Ituri. Une épidémie d'hépatite E vient d'être déclarée dans des zones de santé du sud Ubangi à l'Équateur. 351 cas, dont 13 décès enregistrés depuis le mois de juillet dernier. La maladie proviendrait de l'eau polluée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore des réactions sur la nomination de deux militaires à la tête de la ville de Kinshasa et du ministère de l'Intérieur. Après le PPRD et la MONUC, c'est au tour du MLC. Le mouvement de libération du Congo se dit inquiet de ces nominations dans deux postes revenant au camp présidentiel. Pour Romanini, secrétaire national chargé des réformes du MLC, cela est une entrave au principe de la neutralité de l'armée. Romanini est au micro de René Capita.
Personne ne sait si ces généraux ont démissionné l'armée, parce que s'ils l'ont pas fait, il est évident que juridiquement ce serait anticonstitutionnel. L'armée est apolitique et neutre. L'armée est en plein brassage et l'armée est censée être républicaine. L'armée, en tout cas, de la Troisième République. Alors, il est anormal que on nomme des membres de l'armée, donc censés être neutres, dans le quota destiné à un parti politique, destiné à une mouvance, la mouvance ex-gouvernement. Ce sont vraiment là des questions préoccupantes qui nous inquiètent dans le contexte actuel. Et j'espère que la mouvance présidentielle saura trouver les explications juste pour rassurer tout le monde, en tout cas à ce stade. Au niveau des faits tels que nous les appréhendons, c'est extrêmement préoccupant.
Le secrétaire national chargé des réformes du MLC s'est aussi exprimé sur la question de démission ou non des députés élus du MLC et également mandataires de l'État de leur fonction au Parlement. Un jour après l'expiration du délai leur accordé pour faire le choix entre les deux fonctions, Romanini indique que ces députés se sont conformés à la loi optant pour le Parlement. Quant à leur remplacement, Romanini a signifié que cette question est confidentielle. On l'écoute une fois de plus au micro de René Capita.
Je crois que les députés élus du MLC se sont comportés, à ma connaissance, conformément à la loi, c'est-à-dire en optant pour le Parlement par respect pour leurs électeurs. Quant à la liste, je crois que c'est quelque chose qui se passe au niveau de la superstructure, c'est-à-dire la haute hiérarchie, qui se fait sous le sceau de la confidentialité. Vous comprendrez pourquoi, politiquement, c'est évident. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est simplement qu'il est de bon sens que la haute hiérarchie tire les conséquences de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que dans la mesure où les parlementaires élus déposent, il y a donc vacance et donc nécessité de remplacement. Mais maintenant, quand est-ce que la lettre est partie, qui est dedans, je vous répète que cela relève du sceau de la confidentialité qu'il faut respecter en politique responsable. Mais il n'y a aucune raison que le MLC ne tire pas les conséquences de cette situation légale.
On peut donc conclure que le MLC a déjà désigné des remplaçants.
C'est logique.
Restons à Kinshasa où un forum de concertation s'est tenu ce jeudi au Palais du Peuple. Ce forum a réuni la CEI et les partis politiques, les regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants. La journée a été organisée dans le but d'informer les opérateurs politiques de l'avancement des préparatifs du scrutin du second tour. Ils ont aussi reçu des explications sur les différentes formations dont feront l'objet les témoins des partis politiques. Aussi, la commission électorale indépendante a rappelé aux respect du code de bonne conduite. Notez qu'au cours de cette journée, le président de la CEI a annoncé qu'un changement s'est opéré dans la couleur de bulletin de vote pour les provinciales qui seront désormais de couleur verte. L'actualité, c'est aussi cet incident à Londres. Léonard Che Okitundu, directeur de cabinet du chef de l'État, a été attaqué et frappé par un groupe de Congolais non encore identifiés. Les faits se sont passés hier dans la capitale anglaise où il était en mission de contact avec les milieux officiels anglais. Che Okitundu se rendait dans une chaîne de télévision pour une émission lorsqu'il a été attaqué, dénudé et verbalement menacé de mort. Jean-Blaise Tamboué a pu le joindre à partir de Londres. Suivez son témoignage.
Écoutez, moi je suis venu ici en mission pour certains contacts ici à Londres. Je devais passer une chaîne de télévision qui fonctionne à un téléphone ouvert. À peine arrivé, je suis devant la porte du studio. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la porte pour rentrer dans les studios. Il y a un nombre important. En tout cas, entre 5 et 7 des gaillards qui sont sortis d'une voiture et se sont rués sur nous. Je ne peux pas vous décrire la situation que j'ai vécue pendant une demi-heure. Il y a 5 messieurs, des vraiment des brutes, qui sont acharnés sur moi, m'ont rué des coups de toutes sortes. Moi, où je vous parle, mon dos est complètement balafré et tout rouge. Je n'ai jamais passé un tel moyen d'intervenir une telle demi-heure. Tous les coups étaient permis et on m'a complètement déshabillé. Je suis resté complètement à poil, démoquement. Mais en même temps, il semble que le studio qui m'a invité avait aussi filmé. Il y a certaines personnes qui ont reconnu les agresseurs, enfin au moins deux d'entre eux.
Chez Oukitundu, directeur du cabinet du président Joseph Kabila. Cette agression a aussitôt été condamnée par l'Alliance pour la majorité parlementaire présidentielle, AMP. Au cours d'un point de presse, aujourd'hui en début d'après-midi, le secrétaire permanent adjoint de l'AMP, Lambert Mende, a déploré ce comportement qu'il juge incivique. Il a aussi condamné, je cite, « des pratiques d'un autre âge visant à empêcher les Congolais d'exprimer leurs opinions ». Fin de citation. Par ailleurs, l'AMP s'engage à saisir les autorités britanniques en vue de poursuivre les coupables de cette agression et à s'occuper de leurs commanditaires. Arrivée massive des enfants associés à la milice FNI de Peter Karim dans le centre de transit à Coindroma en Ituri. C'est une localité située à 175 km au nord-est de Bounia. C'est un constat des organisations chargées de protection de l'enfance à l'issue d'une mission mercredi dans ce village. Pour l'instant, l'effectif de ces enfants n'est pas encore connu. Plus de détails avec Julien Niamouini.
Cette situation remonte depuis le mois de juillet dernier. C'est chaque semaine que des enfants quittent clandestinement les positions du FNI dans la brousse et gagnent le centre de transit de Coindroma pour se faire démobiliser. À ces jours, ce centre est plein. Un constat que Peter Karim, chef du FNI, reconnaît. Contacté par téléphone, il attribue ses départs à la famine et non à cause des exactions dont les enfants seraient victimes. Selon lui, cela fait plusieurs semaines que son mouvement ne dispose plus de rations alimentaires pour nourrir ses éléments. Interrogé sur la possibilité de libérer tous les enfants de son mouvement au lendemain de sa nomination au grade de colonel au sein des FRDC, Peter Karim déclare qu'il ne peut pas céder les enfants pour l'instant. Il invite en revanche toutes les organisations chargées de protection de l'enfance à être présente le jour où son mouvement sera invité au centre de brassage par la structure militaire d'intégration. Ceci pour chercher les enfants qu'il détient encore. Julien Diamouini, Bounia, Radio Okapi.
Direction Nord Kivu, des combattants hutu-rwandais font la loi à Ntoto et Ntabuni, deux villages situés à un jour de marche à l'ouest de Walikale Centre. Ils obligent la population à rembourser la somme de 850 dollars américains perdus lors d'un accrochage avec des jeunes paysans. Ces combattants ont aussi imposé une amende de 18 chèvres pour cet acte d'insoumission. Conséquence, les deux villages sont déserts. Les habitants ont préféré se réfugier dans la brousse, ce depuis la fin du mois de septembre dernier. Sylvestre Kilolo revient de Walikale où il a rencontré des déplacés de Toto. Suivez son reportage.
Selon certains habitants en provenance des localités environnant Toto, le village d'Entabouni s'est vidé de sa population depuis bientôt plus de 2 semaines. Toujours selon eux, les FDLR retiennent encore des otages jusqu'à ce que les 850 dollars exigés soient versés. La population de Tabouni, qui est sommée de réunir ces montants et qui n'est pas en mesure de payer, a préféré abandonner leur village pour des villages environnants où, évidemment aussi, la sécurité n'est pas garantie, comme nous l'a dit le chef de poste d'encadrement administratif, M. Akili Malingango. Il nous retrace les péripéties d'insécurité dans ces coins.
Là, les gens sont pillés et tout ce qu'ils possèdent est emporté. Les femmes sont violées. Certains habitants résistent encore de quitter leur village, mais tout en étant traumatisés. D'autres villages, comme Tabouni, sont déserts et d'autres continuent à se vider encore.
Débordés, les commandants de la 32e compagnie, 85e brigade, non encore intégrée, basée en Toto, s'est dit préoccupé. Mais il dit craindre que toute intervention contraignante des FRDC contre les FDLR risque d'affecter les processus électoraux. Cependant, selon les chefs de poste d'encadrement administratif d'Entoto, cette situation fait planer un doute sur la réussite des opérations électorales dans cette partie du territoire de Walikale, contrairement à la situation du premier tour. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Des vivres pour plus de 9000 déplacés à Kalehe, à 75 km au nord de Bukavu, c'est dans le sud Kivu. Il s'agit des familles qui ont fui la zone de Bunyakiri à cause des attaques des combattants hutu-rwandais. Ces vivres ont été distribués hier par la Caritas, une structure de l'Église catholique. Cette structure indique que près de 4000 ménages, soit environ 20 000 personnes, se sont déplacés à l'intérieur de ce territoire de Kalehe. Reportage de Kalehe avec Dieudonné Bagalwa.
Sous un soleil accablant, des milliers de personnes sont regroupées devant la paroisse catholique de Calais à attendre la distribution de vivres. La Caritas estime à environ 9000 le nombre de déplacés à Calais, mais certains jours, ils sont beaucoup plus nombreux à attendre. Pour la Caritas, le problème est que de nombreuses familles d'accueil se présentent également. Elles aussi veulent bénéficier de la distribution, ce qui crée la confusion, la bousculade et parfois la bagarre sur les lieux de distribution. Les autorités expliquent que cet afflux massif de déplacés depuis 6 mois appauvrit la population de Calais et crée des tensions. Aussi, la Caritas propose que les familles d'accueil reçoivent elles aussi une ration alimentaire. Reste à convaincre les donateurs. Dieudonné Bagalwa, Bukavu, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Une épidémie d'hépatite E vient d'être déclarée dans les zones de santé de Guémena, Bogosenoubéon, de Boamanda et de Tandala. 351 cas, dont 13 décès, ont été enregistrés depuis le mois de juillet dernier. Selon le médecin épidémiologiste de l'OMS antenne de Guémena, Koye Gbiavikio, le virus à la base de la maladie proviendrait de l'eau polluée. On l'écoute au micro de Béatrice Nabindi.
Selon les symptômes cliniques que les gens présentaient, ça plaidait plus pour la fièvre jaune. Ce n'est qu'après les examens de laboratoire que nous avons reçu les résultats et que nous avons écarté la possibilité d'une infection à ce virus-là. Et en scrutant les données que nous avons remarqué que ce sont les adultes qui sont plus atteints et les enfants ne le sont pas tellement, en voyant aussi le taux de mortalité. Parce que dans la fièvre jaune, le taux de mortalité, dans le taux de létalité peut atteindre même 50%. Compte tenu de ce taux de létalité, on fait que ça ne plaide pas plus pour la fièvre jaune. Heureusement, les résultats du laboratoire ont corroboré aussi. Nous sommes en train de penser plus à l'hépatite E. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de mener une action dans ce sens-là. Les sources d'eau sont incriminées.
Pour se prémunir contre cette maladie, le médecin épidémiologiste de l'OMS conseille à la population des zones de santé concernées de bouillir de l'eau avant tout usage. Toujours en santé, la cellule technique provinciale de surveillance des maladies du Bas-Congo note un progrès dans le domaine sanitaire. Selon cette cellule, la situation sanitaire de la province est calme. Cela ressort d'une réunion hier mercredi sur la situation sanitaire dans le Bas-Congo. Selon le chef du bureau adjoint chargé des maladies à l'inspection sanitaire du Bas-Congo, plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment la bonne prise en charge des malades et l'intervention des partenaires. Plus de détails avec Guy Roger Niampala.
Au cours de cette rencontre, plusieurs tableaux décrivant la situation sanitaire de la province ont été présentés par les différents services. S'agissant de l'évolution de la rougeole, la flèche est descendante d'après les chiffres présentés. Du 3 au 11 octobre, dans 23 zones de santé du Bas-Congo, 253 cas ont été enregistrés avec 2 décès. En ce qui concerne le choléra, 2 cas ont été signalés à Mwanda sans faire des victimes. Quant à l'endémie du paludisme, 8115 cas ont été comptés avec 17 décès dans ces zones de santé. Monsieur Maïmba Masselo, chef du bureau adjoint chargé des maladies à l'inspectorat sanitaire du Bas-Congo, pense qu'une bonne prise en charge des malades, l'isolement des personnes atteintes et l'appui de partenaires tels que l'OMS, Médecins Sans Frontières Belgique, sont les raisons qui justifient cette accalmie dans la province. Il existe cependant des zones de santé où la rougeole et le choléra restent permanentes, telles que Mwanda, Tchela, Sekebanza, Bokokivuvu et Kimpese, a poursuivi Monsieur Maïmba. À l'issue de cette rencontre, un appel a été lancé aux personnes de zone de santé de respecter la prise en charge et l'isolement des malades pour éviter la propagation des maladies. Matadi, Guy Roger Niampala, Radio Okapi.
Vous écoutez Radio Okapi, il est 19h14 à Kananga, la suite du journal avec vous, Adia Chipuku. Économie, le Fonds social de la République s'engage à remplacer et à réparer les deux bacs qui desservent le territoire de Dékessé. Cette décision intervient une semaine seulement après la mission humanitaire mixte conduite par la MONUC dans ce territoire situé à 470 km de Kananga. La mission avait relevé le manque des voies d'accès à ce territoire. José Moussenga, chef d'antenne du Fonds social Kassai Occidental, confirme au micro de Basile Bakumbane la décision de son institution de financer la réouverture des deux principales voies d'accès de Dékessé.
Le fonds social a été touché par ce problème et s'y penche sérieusement. Nous sommes disposés à mettre les voies et moyens pour désenclaver Dékessé. Il y a les deux rivières qui posent problème. Il faudrait donc poser des bacs sur ces deux rivières. Au niveau de l'Ukéni, il y a un bac qui est en place, mais qui est noyé et les moteurs avaient été enlevés. Nous sommes disposés à aller jusqu'à un montant de 100 000 $. Si avec ce montant, nous pouvons réparer les bacs sur la rivière Lukeni et construire un bac au niveau de Sankourou, je pense que nous pourrons les faire pour que nous puissions résoudre ce problème.
C'est donc par là que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site internet www.radiookapi.net.